إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a commencé la semaine dernière le deuxième fondement de cette épître du Cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ce deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Et on a vu que l'islam est composé de trois degrés, qui sont l'islam, l'iman, qui est la foi, et l'ihsan, qui est la bienfaisance. Et on a vu lors de la dernière assise, le premier degré, qui est l'islam, et ses cinq piliers. Et avant de commencer le cours de ce soir, et de rentrer dans les questions liées à la foi, je souhaiterais revenir sur un point, suite à une question qui m'a été posée, et qui concerne les trois degrés de la religion. Car on a vu dans le cours dernier l'islam et sa définition, qui est la soumission à Allah par le tawhid, la sujétion à lui par son obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc ça, c'est la définition de l'islam dans son sens général. Ensuite, on a vu que cet islam, il est composé de trois degrés. Et le premier degré est l'islam dans son sens particulier et ses cinq piliers, les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ensuite vient un degré plus élevé, plus éminent, et qui est un cercle plus restreint, qui est le cercle de la foi, l'iman, et qui lui est composé de six piliers comme on va le voir ce soir. Et vient ensuite encore un degré plus élevé et plus éminent, qui est le degré d'al-ihsan, la bienfaisance, et qui est un cercle lui aussi plus restreint. C'est-à-dire que tout muhsin, toute personne qui a atteint le degré d'al-ihsan, de la bienfaisance, il est en même temps mu'min et muslim. Il est aussi croyant et musulman. Par contre, ce n'est pas tout mu'min qui est muhsin. Il se peut qu'une personne atteigne le degré d'al-iman, de la foi, mais n'atteigne pas le degré de la bienfaisance. Par contre, ce mu'min, il est forcément muslim. Il a forcément atteint le degré d'al-islam, le premier degré. Ensuite vient le muslim, qui est le premier degré, et qui lui n'est pas forcément mu'min et muhsin. Donc c'était juste pour revenir sur ce point et le clarifier en espérant avoir été assez clair avec cette courte explication. Aussi, on peut mentionner le fait que l'iman et l'islam, la foi et l'islam, lorsqu'ils sont mentionnés séparément, ils ont le même sens. Lorsqu'on dit quelqu'un est croyant, quelqu'un est musulman, cela englobe les mêmes choses. Mais quand ils sont mentionnés ensemble, alors chacun a un sens particulier. L'islam, il va représenter alors les œuvres apparentes, comme on l'a vu à travers les cinq piliers de l'islam. Et l'iman, la foi, elle va représenter les œuvres intérieures, c'est-à-dire les croyances, comme on va le voir à travers les six piliers de la foi dans l'assise de ce soir. Donc lorsqu'ils sont séparés, ils ont le même sens. Et lorsqu'ils sont ensemble, l'islam représente les œuvres apparentes et l'iman, la foi, les œuvres intérieure. Donc le cheikh, il dit, rahimahullah ta'ala, al-martabatu thaniya al-iman. Le deuxième degré, c'est la foi, c'est-à-dire le deuxième degré de la religion. Et la foi, al-iman, dans la langue arabe, cela désigne le fait de croire en une chose et de l'accepter. Quant à sa définition, dans la législation, alors les gens de la sunna et du groupe l'ont définie par cinq points, qui sont tous indispensables. La foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur, une œuvre du corps. Elle augmente par l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle diminue par la désobéissance. Donc ceux-ci sont les cinq points nécessaires qui doivent être mentionnés dans la définition de la foi chez les gens de la sunna et du groupe. Donc on répète, la foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur, des actes des membres. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. La foi donc,
C'est tout d'abord une parole de la langue, c'est-à-dire qu'il est indispensable de prononcer cette foi, en prononçant par exemple l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il est indispensable que cette foi, elle se manifeste sur ta langue. Ensuite, c'est une croyance du cœur. C'est-à-dire que ce que tu prononces par ta langue, tu dois en avoir la ferme conviction dans ton cœur. Et ce que tu prononces par ta langue doit être en adéquation avec ce qu'il y a dans ton cœur. Car si tu prononces par ta langue des choses qui ne se trouvent pas dans ton cœur, alors ta situation est semblable à celle des hypocrites, ceux desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 11 de Surat al-Fath, « يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » Ils disent avec leur langue ce qui ne se trouve pas dans leur cœur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, donc on a dit une parole de la langue, une croyance du cœur. Et est-ce que ceci est suffisant? Est-ce qu'il suffit à la personne pour être considérée comme étant croyant de prononcer une parole par la langue et d'en avoir la conviction dans son cœur? Ceci n'est pas suffisant. Il est indispensable de mettre en pratique ce qu'implique cette foi. Il est indispensable d'accomplir les prescriptions, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, et également de t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc le croyant, il met en pratique l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'écarte des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci fait partie de la définition de la foi. Donc la foi, elle englobe en réalité la religion tout entière. Elle englobe les obligations, mais également toutes les autres législations qui ne sont pas obligatoires, mais qui viennent pour compléter la foi. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis une œuvre surrogatoire, une œuvre qui n'est pas obligatoire, ceci va faire augmenter ta foi et cela va compléter la perfection recommandée de la foi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَهُوَ يَعْنِ الْإِيمَانِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبًا فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » Ensuite, il a dit, rahimahullah, et la foi, elle est composée de bid'a wa sab'una shu'ba, c'est-à-dire entre 73 et 79 branches. Car le mot bid'a en arabe, il désigne un chiffre compris entre 3 et 9. Donc on dira que la foi, elle est composée de 73 à 79 branches. La plus haute est le fait de dire la ilaha illallah. Et la plus basse consiste à retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. Ce qu'a mentionné l'auteur ici, rahimahullah, est en réalité une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi est composée entre 73 et 79 branches, puis il a mentionné ce que l'auteur a cité, rahimahullah, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc la foi, elle est composée de 73 à 79 branches. La plus haute, qu'est-ce que c'est? C'est la parole « La ilaha illallah ». Car c'est la chose la plus importante de l'islam. Et c'est la chose la plus importante liée à la foi. Et c'est le premier pilier de l'islam. Et c'est par cette parole que la personne rentre dans la religion de l'islam. La plus basse, c'est-à-dire la plus basse branche de la foi. Le minimum de la foi, c'est quoi? C'est le fait de retirer un objet gênant de la route. Quelle que soit cette chose, que ce soit une pierre, que ce soit des poubelles, que ce soit des épines, des clous ou autre, toute chose qui est sur la route, qui est empruntée par les gens et qui gêne les gens lors de leur passage, alors le retirer fait partie de la foi. Quant au fait de poser des objets gênants sur la route, alors ceci est interdit, car si retirer un objet gênant de la route fait partie de la foi, il n'y a pas de doute que poser un objet gênant sur la route s'oppose à cette foi. Comme le fait, par exemple, de garer sa voiture au milieu de la route. Ceci fait partie des nuisances. Ceci fait partie des gênes qui sont interdites en islam. Et cela s'oppose à la foi. De la même manière, ce que font certaines personnes lorsqu'ils nettoient leur maison et qu'ils laissent couler de l'eau sur toute la route. Dans toute la rue, il y a de l'eau. Ceci s'oppose à la foi. Car cette eau, lorsqu'elle est sur la route, elle gêne les passants. Également, le fait de jeter les poubelles, de jeter des choses ou tout autre objet gênant, comme le fait de poser des pierres, des morceaux de fer ou toute autre chose qui est posée sur la route, ceci s'oppose à la foi et est interdit. Donc, lorsque le musulman, il voit une de ces choses, il voit une pierre, il voit un bâton, une poubelle ou autre sur la route, et qu'il l'enlève de la route et qu'il la met sur le côté, ceci est un signe de sa foi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Et la pudeur fait partie de la foi. La pudeur, c'est un comportement qu'Allah place dans le cœur de la personne. Et cette pudeur, elle va le pousser à faire des choses qui l'embellissent. Et elles vont l'empêcher de faire des choses qui nuisent à son image. Donc, la pudeur, elle pousse celui qui la possède et qui fait preuve de pudeur, elle le pousse à quoi? Elle le pousse aux œuvres de bien et elle l'éloigne de toute œuvre de mal. Et ceci est la pudeur qui est louable. Quant à la pudeur qui empêche la personne de faire le bien, qui empêche à la personne de poser des questions au sujet de sa religion, qui empêche à la personne de se rendre dans les assises de science ou toute autre chose légiférée dans la religion, alors ceci est une pudeur qui est blâmable en islam. Ceci est une pudeur qui est blâmable en islam et qui n'est pas légiférée. Donc ceci sont des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith parmi les branches de la foi. Mais en réalité, les branches de la foi, elles sont bien nombreuses, comme on l'a dit, elles sont comprises entre 73 et 79 branches. Et l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, il a écrit un grand livre à ce sujet qui a été résumé et qui est imprimé, et je crois même qu'il a été traduit en français, intitulé donc « Les branches de la foi ». Et ce hadith, rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et dont l'auteur, rahimahullah, a mentionné les termes, c'est une des preuves que mentionnent les savants pour prouver ce que l'on a mentionné en tant que définition de la foi. C'est-à-dire que la foi est une parole de la langue, une croyance du cœur et une œuvre des membres. Pourquoi? En quoi ce hadith nous prouve la définition de la foi? Méditez sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « A'laha qawlu la ilaha illallah ». La plus haute branche de la foi, c'est la parole « La ilaha illallah ». Donc, c'est une parole de la langue. Ceci est le premier point de la définition de la foi. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et la plus basse consiste à retirer un objet gênant de la route. Et ceci est une œuvre du corps. Donc, c'est une partie de la définition de la foi qui est prouvée par ce hadith. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. Et où se trouve la pudeur? La pudeur, elle est dans le cœur. La pudeur, c'est une chose qui se trouve dans le cœur. Et c'est une preuve donc que la foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et des œuvres du corps. Ce hadith, il nous prouve donc trois des points mentionnés par les gens de la sunna dans la définition de la foi. Et c'est certainement pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné cela afin de nous indiquer la définition de la foi chez les gens de la sunna. Donc on a dit que la foi était composée de cinq points. Une parole de la langue, une croyance du cœur et des œuvres du corps. Et on a dit qu'elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. On a vu la preuve des trois premiers points. Quelle est la preuve que la foi augmente et elle diminue? La preuve quant à son augmentation est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 2 de Surat al-Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les croyants, ce sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque l'on évoque Allah et lorsqu'on leur récite ces versets, alors leur foi augmente. Ce verset, il nous prouve donc que la foi des croyants, elle augmente à l'écoute des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une preuve, parmi les preuves, démontrant que la foi augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la preuve de sa diminution, alors les savants ont mentionné tout d'abord que tout ce qui augmente, alors forcément, il diminue. Toute chose qui augmente, elle diminue forcément par moment. Et également, ils ont mentionné comme preuve de la diminution de la foi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira, au jour de la résurrection, selon la traduction des sens rapprochés, sortez du feu. Toute personne qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. Donc ce hadith, il nous prouve que la foi, elle peut diminuer jusqu'à être telle le poids d'un grain de moutarde dans le cœur. Également, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Saïd également, rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le plus bas de la foi. » Et ceci est le plus bas de la foi. Ceci nous indique donc que la foi, elle descend, qu'elle s'affaiblit et qu'elle diminue. Et en parallèle, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa arkanuhu sitta. Et ses piliers sont au nombre de 6, c'est-à-dire les piliers de la foi. Donc on a vu que la foi, elle est composée de branches et elle est composée également de piliers qui sont au nombre de 6. Et quelle est la différence entre les branches de la foi et les piliers de la foi? La différence, c'est que les piliers, ils sont indispensables. Si une personne ne croit pas en un pilier de la foi, alors il n'est pas croyant. Il ne fait pas partie des gens de l'islam. Ils sont donc indispensables. Quant aux branches, alors ce sont les choses qui vont compléter. Si une personne délaisse une branche parmi les branches de la foi, alors sa foi ne disparaît pas, mais elle diminue. Sa foi, elle diminue, elle s'affaiblit et elle est manquante. Contrairement à celui qui délaisse un pilier. Celui qui délaisse un pilier, il sort de la foi. Il ne fait plus partie des gens de la foi. Alors que celui à qui il manque certaines branches de la foi, alors sa foi est manquante. Sa foi est défaillante. Et il lui convient d'accomplir les branches de la foi, qui sont composées de branches qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées. Celles qui sont obligatoires, elles viendront compléter la perfection de la foi obligatoire. Et celles qui sont recommandées, elles viendront compléter la perfection de la foi qui est recommandée. Donc si un musulman délaisse une chose parmi les obligations ou fait une chose parmi les interdits, sa foi, elle ne disparaît pas entièrement. Et ceci est la croyance des gens de la sunna quant à celui qui fait des péchés. Sa foi, elle ne disparaît pas complètement. Mais c'est seulement sa perfection obligatoire qui disparaît ou qui diminue. Et on le considérera comme quelqu'un ayant la foi basse, ayant la foi défaillante. Et il se peut qu'il soit considéré comme étant un pervers selon le péché qu'il a commis. Comme celui, par exemple, qui a consommé de l'alcool, ou qui a volé, ou qui a fait une chose parmi des grands péchés. On le considérera comme ayant fait un acte interdit. Un grand péché parmi les péchés. Cependant, il ne sort pas de l'islam par cela. Il ne sort pas de l'islam par le simple fait de commettre un grand péché. Mais il est considéré, pour les gens de la sunna, comme étant un pervers. Il est croyant par la base de sa foi et pervers à cause de sa désobéissance. De la même manière, celui qui délaisse une obligation, comme celui qui délaisse la bonté envers ses parents, ou le maintien des liens de parenté, car ceci fait partie des obligations. Celui qui délaisse cela, il sera considéré comme ayant la foi défaillante. Et il est désobéissant. Il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par le délaissement de cette obligation. Donc, il est désobéissant, il a délaissé une obligation, il a commis un acte interdit, mais cependant, la foi est toujours présente dans son cœur. Il est considéré comme étant un croyant à la foi défaillante. Ceci est donc la voix des gens de la sunna au sujet de celui qui a commis un péché. Et il s'oppose en cela au khawarij et au mu'tazila. En effet, al-khawarij et al-mu'tazila, ils rendent mécréant celui qui commet un grand péché. Les khawarij, ils le considèrent mécréant. Ils le considèrent comme étant sorti de la religion de l'islam. Quant au mu'tazila, ils considèrent qu'il est sorti de la religion, mais qu'il n'est pas rentré dans la mécréance. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une station entre l'islam et la mécréance. Ils disent qu'il n'est pas croyant et il n'est pas mécréant. Et il n'y a pas de doute que ces idéologies sont des idéologies innovées et qui s'opposent aux preuves du Coran et de la Sunna. Et cela s'oppose à ceux qu'ont démontré les gens de la Sunna et du groupe et la cause de leur déviance à ce sujet est qu'ils ont eu un manquement quant à la considération des preuves. C'est-à-dire qu'ils ont pris les versets et les hadiths dans lesquels se trouvent des menaces. Et ils ne les ont pas réunis avec les versets et les hadiths dans lesquels se trouvent des promesses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils ont pris le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا » Quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceci est le verset 23 de Surat al-Jin. Ils ont pris ce verset de manière individuelle et ils l'ont compris selon son sens apparent. Ils ont dit donc, quiconque accomplit une désobéissance à Allah et à son messager, il ira au feu pour y demeurer éternellement. Et qui va demeurer au feu éternellement? Ce sont les mécréants. Donc ils disent, quiconque commet un péché, c'est un mécréant. Mais ils n'ont pas considéré les autres preuves, les preuves liées à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme sa parole subhanahu wa ta'ala, dans le verset 48 de Surat An-Nisa, où il a dit subhanahu wa ta'ala, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. En dehors de cela, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ce verset, il nous démontre quoi? Il nous démontre que tout péché, en dehors du shirk, en dehors du polythéisme et en dehors de la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner à son auteur. Celui qui meurt en ayant commis un péché, comme le vol, comme la consommation de l'alcool ou autre parmi les grands péchés qui ne sont ni du kufr ni du shirk, alors celui-ci est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le châtiera. Et si Allah veut, il le pardonnera et le fera entrer au paradis. Il le châtiera à hauteur de son péché. Il ne demeurera pas en enfer éternellement si c'est un croyant. Donc il est important de réunir entre les textes et de ne pas prendre une partie des textes et de délaisser le reste. Donc c'est le manquement à ce sujet qui a amené Al-Khawarij et Al-Mu'tazila à s'égarer au sujet de la foi. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit « وَأَرْكَانُهُ السِّتَّةِ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. » Donc ces piliers, les piliers de la foi, sont au nombre de six. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceci sont donc les six piliers de la foi. Ce sur quoi la foi repose. Et il est indispensable pour la personne de croire en ces six piliers, sinon il ne fait pas partie du nombre des croyants, ni du nombre des musulmans. Le premier pilier, c'est donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela comprend les trois formes de tawhid que l'on a vues précédemment. Le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans sa seigneurie. Il est le seul à nous avoir créés, le seul à nous donner notre subsistance. C'est lui qui nous donne la vie et qui nous donnera la mort. Et c'est lui qui dirige cet univers. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'il n'a pas d'associé dans la création et dans sa royauté, alors il n'a pas d'associé dans l'adoration. Également, Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses noms et ses attributs les plus parfaits. Donc lorsqu'on dit avoir la foi en Allah, cela implique avoir la foi en ces trois choses. Avoir la foi que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique à diriger l'univers, qu'il est le seul endroit d'être adoré et qui possède les plus beaux noms et les attributs parfaits. Le deuxième pilier de la foi, c'est la foi aux anges. Al-imanu bil malaika. Et le malaika, c'est le pluriel en arabe du mot malak, qui désigne donc les anges. Et les anges, ce sont des créatures parmi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie du monde de l'imperceptible. C'est-à-dire que nous ne les voyons pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour qu'ils l'adorent et pour qu'ils se soumettent à ses ordres. C'est-à-dire qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne lui désobéissent jamais. Et ils sont de différentes catégories et de différentes sortes. Parmi eux, il y a celui qui est chargé de la révélation et c'est Jibril alayhi salam. Et c'est le plus noble des anges. Il y a également parmi eux, parmi les anges, ceux qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 17 de Surat al-Haqqa, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Et sur ses côtés se tiendront les anges, et 8 d'entre eux porteront ce jour le trône de ton Seigneur. Et le trône, c'est la plus immense des créatures. Et les anges, ces 8 anges, ils vont porter le trône. Ceci nous montre l'immensité des anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la force de porter la plus immense des créatures, qui est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les anges, il y a également celui qui est chargé de la pluie et de la végétation. C'est l'ange Mikaïl alayhi salam. Parmi les anges, il y a également celui qui est chargé de souffler dans la trompe lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnera. Et son nom est Israfil alayhi salam. Il y a parmi les anges également celui qui est chargé de retirer des âmes du corps des enfants d'Adam. Et celui-ci est l'ange de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 11 de Surat al-Sajda, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Vous serez ensuite ramené vers votre Seigneur. Donc celui-ci, il vient aux enfants d'Adam lorsqu'arrive leur terme pour leur retirer leur âme sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les anges, il y a également celui qui est chargé des fœtus lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, comme il est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la création de l'un d'entre nous est réuni dans le ventre de sa mère durant 40 jours. Il a mentionné les 3 étapes de la création. Puis il a dit qu'après cela, il envoyait un ange pour lui insuffler son âme. Il y a également parmi les anges ceux qui sont chargés de recueillir, d'inscrire les œuvres des enfants d'Adam, alayhi salam. Donc, ceux-là sont les nobles scribes, ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans Surat al-Infitar, dans les versets 10 et 11, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin » Et des gardiens veillent sur vous, ce sont de nobles scribes. Ceux-là, ils écrivent tout ce que les hommes font. Toutes les actions que tu accomplis, bonnes ou mauvaises, ils les notent et elles te seront présentées au jour de la résurrection. Parmi les anges, il y a également ceux qui sont chargés de protéger les êtres humains contre toute chose nuisible. C'est-à-dire qu'ils te protègent de tout ce qui pourrait te nuire. Ils te protègent du mal des ennemis et autre chose nuisible. C'est de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le verset 11 de Surat al-Ra'd, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi, yahfadhunahu min amrillah. » L'homme a devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bienveillance et sa miséricorde, il a chargé de ses anges pour veiller, pour protéger sur les enfants d'Adam, alayhi salam. Également parmi les anges, il y a ces anges qui parcourent la terre recherchant les assises de rappel afin d'y assister. Et c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans le hadith rapporté par Muslim rahimahullah d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun groupe ne se rassemble dans une des maisons d'Allah afin de lire le Coran et se l'enseigner entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude, que la miséricorde les recouvre et que les anges ne les entourent. Donc ceci sont différentes choses dont les anges sont chargés, alayhimus salam. Il est donc impératif pour le musulman d'avoir la foi aux anges, de croire en l'existence des anges et dans ce que l'on vient de mentionner de manière détaillée. Et quiconque met croit aux anges et dit que les anges n'existent pas ou que l'un d'entre eux n'existe pas sous prétexte qu'il ne les a pas vus, alors celui-ci est un mécréant qui est sorti de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le troisième pilier de la foi est al-iman bi-kutubihi, la foi aux livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus sur ses messagers, alayhim salat wa salam, afin de guider les êtres humains. Nous devons croire que ces livres sont réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés, mais également à ceux qu'il n'a pas nommés et dont nous n'avons pas connaissance. Nous y croyons de manière générale. Et parmi ceux qu'il a nommés, il y a la Torah, l'Injil, l'Évangile, l'Zabur et le Coran immense, le Coran, l'Azim, ainsi que les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, alayhim assalam. Donc, nous devons croire aux livres précédents, c'est-à-dire les livres qui ont précédé le Coran, on y croit de manière générale. C'est-à-dire, nous croyons que ce sont des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses prophètes et ses messagers, alayhim assalatu wassalam. Quant au Coran, nous devons y croire de manière détaillée. C'est-à-dire que nous devons croire en tout ce qui se trouve dans le Coran comme parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est notre livre et c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque rejette ou mécroit un verset ou même ne serait-ce qu'une lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un mécréant et il ne fait pas partie des gens de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le quatrième pilier de la foi, c'est la foi au messager, alayhim salatu wassalam. C'est-à-dire que nous avons foi en l'ensemble des messagers, du premier au dernier, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés et ceux qu'il n'a pas nommés. Nous croyons en l'ensemble des messagers et des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'ils sont réellement les messagers d'Allah, alayhim salatu wassalam, qu'ils sont venus avec un message qu'ils ont transmis à leur communauté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque mécroit en un seul prophète, alors c'est un mécréant. Et c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers, alayhim salatu wassalam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 105 de la sourate Al-Shu'ara, « Kadhabat qawm Nuhin il-mursalin » Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Et combien de messagers ont connu le peuple de Nuh? Ils n'ont connu que Nuh, alayhi salam. Et tous les autres messagers sont venus après Nuh, alayhi salam. Malgré cela, le fait qu'ils aient mécru en Nuh, alayhi salam, c'est comme s'ils avaient mécru en l'ensemble des messagers. Donc ce verset, il nous prouve que si une personne, elle mécroit en un seul prophète ou en un seul messager, alors il n'est pas musulman et il sort de l'islam. Comme une personne qui mécroirait par exemple en Isa alayhi salam ou en Moussa alayhi salam, alors celui-ci ne fait pas partie des gens de l'islam. De la même manière, les juifs ont mécru en Isa et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les chrétiens, ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont tous mécréants. De par leur mécréance en Isa alayhi salam ou en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font pas partie du nombre des croyants. Et il n'est pas permis pour le musulman de penser qu'un juif ou un chrétien est un croyant ou qu'il est sur une religion qui est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car leur religion était abolie et abrogée par l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire qu'il aurait suivi la religion de l'islam. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il va redescendre, à la fin des temps, il suivra la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque mécroit en un seul des messagers, c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble et il est par cela considéré comme un mécréant. Le cinquième pilier, c'est la foi au jour dernier. Ce qui est voulu par le jour dernier, c'est le jour de la résurrection. Et la foi au jour dernier, elle englobe en réalité la foi en tout ce qui a lieu après la mort. À commencer par la sortie de l'âme, le châtiment de la tombe ou ses délices, les questions des deux anges, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, tout ce qu'il va se passer dans la tombe, également la résurrection et le grand rassemblement, la balance, la pesée des bonnes et des mauvaises œuvres, le paradis et l'enfer, et tous les détails liés à ce sujet font partie de la foi au jour dernier. Et le musulman, il doit croire à l'ensemble de cela. À partir de la mort, et ce, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entre en enfer. Tout ce qui nous est rapporté authentiquement à ce sujet, nous y avons foi et nous n'avons aucun doute à ce sujet. Et quiconque a un doute sur une des choses rapportées au sujet de ce qui se passe après la mort, comme une personne qui douterait du châtiment de la tombe, ou d'une personne qui douterait que la personne sera interrogée dans sa tombe, ou toute autre chose rapportée de manière authentique, parmi les choses qui se produisent après la mort, celui qui a un doute à ce sujet, ou qui ne croit pas en ces choses, alors c'est un mécréant, il ne fait pas partie du nombre des musulmans. Enfin, le sixième pilier de la foi, c'est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire que tu crois que tout ce qui se passe dans cet univers, comme bien ou comme mal, comme mécréance ou comme foi, comme bienfait ou comme épreuve, comme aisance ou comme difficulté, comme maladie ou comme bonne santé, tout ceci ne se produit que par décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc croire que tout ce qui t'atteint n'aurait pas pu t'échapper. Et tout ce qui t'a échappé, tu n'aurais pas pu l'atteindre. Car toute chose ne se produit que par décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 22 de sourate Al-Hadid, « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. » Aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile pour Allah. Ceci est donc la foi au destin. Et la foi au destin, elle englobe 4 degrés. Et il est obligatoire pour le musulman de croire à l'ensemble de ces degrés. Le premier degré, c'est que tu aies la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Et il sait même les choses qui ne se passent pas, si elles se passeraient, comment elles se passeraient. Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. Et ceci est le premier degré de la foi au destin. Le deuxième degré, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par son savoir, il a écrit tout ce qui allait se produire. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est quoi? Al-qalam, la plume. Il lui a dit, écris. Alors il lui a dit, et que dois-je écrire? Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors ordonné d'écrire tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi, rahimahum Allahu ta'ala, et d'autres, d'après Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu. Donc tu as la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur Allah al-Mahfouz, sur les tablettes préservées, tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci est le deuxième degré de la foi au destin. Le troisième degré, c'est que tu crois que rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah veut, cela se produit. Et ce qu'il ne veut pas, cela ne peut avoir lieu. Et tout ce qui se produit, cela se passe comme il l'a voulu et comme il l'a écrit sur les tablettes préservées, sur Al-Lawh Al-Mahfouz. Ainsi, rien ne se produit dans ce monde et dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième degré, c'est que tu crois que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su, qu'il a écrit et qu'il a voulu, alors il le crée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Il nous a créé nous, ainsi que nos œuvres. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 96 de sourate As-Safat, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » C'est Allah qui vous a créé vous, ainsi que ce que vous faites, ainsi que vos œuvres. C'est-à-dire que tes œuvres, elles font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les quatre degrés de la foi au destin. Et il est impératif de croire en ces quatre choses. Celui qui ne croit pas en ces quatre choses, alors il n'a pas une foi réelle au destin, au qadar. Tu dois croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes choses, qu'il a connaissance de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'écrire ces choses, qu'il a voulu que cela se produise et qu'il l'a créé. Donc quiconque mécroit en un de ces degrés, alors il ne fait pas partie du nombre des musulmans, car il est impératif de croire à l'ensemble de cela pour avoir la foi, pour avoir l'iman. Ceci sont donc les six piliers de la foi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il a mentionné la preuve de cela. Car comme on l'a dit, il ne mentionne pas une chose sans en mentionner sa preuve. Et il a dit, « وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ سِتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc la preuve concernant ces six piliers, les six piliers de la foi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc on a ici dans ce verset 5 des 6 piliers de la foi. Ensuite il a dit, rahimahullah, wa dalil al-qadr, et la preuve concernant le destin, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Nous avons créé toute chose avec mesure. Nous avons donc terminé ce qui concerne le deuxième degré de la religion, qui est la foi et ses six piliers. Et on verra la semaine prochaine, inshallah, le troisième degré qui est l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que le hadith de Jibril, alayhi salam, qui est une preuve concernant l'ensemble de ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce fondement. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.